demain.
Bye. Yeah.
Boulevard. Pendant que vous êtes sur le terrain de camping, le terrain de baseball ou le terrain de frisbee, Boulevard est sur le terrain pour continuer de vous informer tout l'été de ce qui se passe dans notre ville. À Boulevard 102.1. Vous en profitez, on vous informe.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Quel plaisir de le retrouver en ce lundi soir, Maître Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice, avocat émérite. C'est un animateur de radio incroyable et je le retrouve ce soir. Bonjour, Maître Bellemare. Vous n'avez pas changé? Ben, je pensais vous retrouver avec un peu moins de cheveux. Ben non, il continue, il reste là, ces cheveux-là.
Ouais, c'est parce que tu vois pas mon derrière de tête, tu vois juste le devant. Ce qui est une bonne idée, parce que le devant compte toujours plus que le derrière.
Oui.
Dans tout, n'est-ce pas?
Voilà, effectivement. Maître Bellemare, vous avez passé un bel été?
Oui, écoute, ça a pris du temps avant de partir, par exemple. On est vraiment dans les hauts et les bas climatiques. Là. Écoute, c'est l'enfer. Ben, d'abord, on a eu un mois de mai exécrable. Ouais. Après ça, ça s'est replacé un petit peu. Puis là, ben, coudonc, il fait 30, 32... 34 aujourd'hui, je pense, c'est le maximum qu'il annonce, puis demain aussi. Alors, ben c'est sûr, au moins, tu sais, il ne pleut pas, on peut faire des choses, mais il faut faire attention. En fin de semaine, j'ai fait le tour de l'île aux Coudres, dont le bateau a brisé.
Ben oui.
Selon ce que j'ai vu sur le fil d'après, un des deux bateaux, ça veut dire qu'il va avoir deux fois moins de traversée. J'ai fait le tour de l'île aux Coudres, et sincèrement, là, vendredi, c'était très chaud. Il y a deux côtes à l'île aux Coudres là, qui sont assez significatives que je n'ai pas pu monter à vélo. J'ai débarqué pour monter à pied parce que je manquais d'air. Parce que c'est vrai que quand il fait très chaud comme ça, à un moment donné, on pompe, puis on a chaud, puis il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air parce qu'il n'y a pas de vent. C'est le gros soleil, c'est pesant. Puis il ne faut pas prendre de risques non plus sur notre santé. Ouais. Surtout, toi, tu es jeune, tu ne comprends pas ça. Là. Mais moi,
je comprends, Maître Bellemare.
Moi, je pense ça de plus en plus.
Nous, on fait du travail de bureau. Puis heureusement, en 2025, dans pas mal tous les bureaux, c'est climatisé. Mais je pense à tous ceux qui travaillent, autant à Montréal qu'à Québec. On est autour de 40 degrés avec le facteur humidex là, un peu partout au Québec pour ce qui est de la région du sud, là, sud du Québec. 40 degrés comme température ressentie. Pensons à tous ceux qui travaillent dans les usines. Pensons à tous ceux qui travaillent dans les fonderies, tous ceux qui travaillent sur les toitures de maisons, ceux qui font de l'asphalte, Maître Bellemare, ceux qui travaillent sur la construction, les menuisiers. Ceux qui travaillent dans les cuisines, ça doit être épouvantable. J'ai un énorme respect pour vous autres ces temps-ci. Vous êtes des soldats de la vie parce que pas sûr que je serais capable d'endurer tout ce que ces travailleurs-là font là, actuellement avec cette température. Puis ça va être comme ça toute la semaine. La bonne nouvelle, c'est que c'est plein soleil. Puis pour tous ceux qui sont en vacances, les gens sont très gâtés. Mais ceux qui travaillent à l'extérieur, ça doit pas être évident. Là. Ça doit vraiment pas être évident. Maître Bellemare, commençons avec nos moutons au Québec. Aujourd'hui, c'est la partielle dans Arthabasca. Je pensais jamais être aussi excité un jour par une partielle. La libération Chantal Marchand et de la course pour devenir député. Il y a le péquiste Alex Boissonneau aussi, le conservateur et chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui est là. Le caquiste Kevin Brasseur qui a accepté une job qui n'est vraiment pas évidente, là, surtout quand on était au courant des intentions de vote dans Arthabasca, d'accepter de faire l'élection pour la CAQ. C'est extrêmement courageux de sa part. Et la solidaire Pascal Fortin qui, elle, est en France actuellement, là, la journée des élections. C'est les cinq principaux candidats dans Arthabasca. Donc, une partielle, 26 % des individus dans Arthabasca auraient voté dans les derniers jours et on me dit que les bureaux de scrutin sont ouverts, ça fonctionne bien. Quelle est votre prédiction, Maître Bellemare, premièrement? Puis par la suite, parlons un peu de cette élection partielle-là. Pourquoi elle est si importante?
Ben écoute, moi, ma prédiction, c'est que Duhaime va rentrer. Mais écoute, c'est une prédiction, c'est très personnel, là. Évidemment, il y a juste toi qui le sais. Là. D'après moi, Duhaime va rentrer, je vais te dire pourquoi. Il y a le vote conservateur, traditionnellement, passe toujours sous le radar. On a des sondages qui disent que le PQ et Duhem sont au nez à nez, mais il y a beaucoup de gens qui sont gênés de dire qu'ils vont voter conservateur. Regarde la dernière élection fédérale, là. On avait Carney qui était en
Ouais.
hausse, puis les Poilievre qui étaient supposés être battus à plate couture, puis finalement, il a fait très bien. Il a augmenté son vote populaire. Je pense qu'il a augmenté aussi ses députations. Et dans Victoriaville, notamment, il a été élu. Le vote conservateur, il y a des, tu sais, les gens au téléphone, quand ils se font appeler, pour, allez-vous voter, pour qui vous allez voter? Les péquistes, c'est ah, oh, l'indépendance, PQ, tout ça, ils sont plus explicites, plus exubérants, et les conservateurs ne le sont pas. Et
Ouais.
moi, je pense qu'il y a un vote conservateur en dessous de la ligne des sondages qui va se manifester ce
Un
soir.
peu comme on a vu aux États-Unis avec le vote
Avec Trump.
républicain versus
Non,
démocrate.
mais
OK.
écoute, 53 % du vote populaire.
Ouais.
Le vote conservateur au Québec, c'est pas hot d'être conservateur au Québec. C'est hot d'être à gauche. Montréal, qui a la moitié de la population du Québec, c'est à gauche. Traditionnellement, beaucoup de médias sont à gauche. On est à gauche partout. Alors, le Québec est à gauche, c'est connu. Et c'est palpable. Dans l'actualité, quand on écoute un petit peu ce qui se passe dans l'actualité, on voit qu'il y a beaucoup de penchants à gauche. Et moi, je pense que Duhem va gagner cette élection-là. En tout cas, écoute, je le souhaite. Je vais te dire pourquoi. Je veux du changement au Québec. Et tous ceux que tu as nommés, là, le PLQ, la CAQ, Québec solidaire, le PQ, ils sont à peu près tous sur le même échiquier. Et j'aimerais ça qu'il y ait un discours de droite qui soit pas nécessairement dominant, mais qui soit dans l'actualité, qu'on ait un point de vue de droite. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont de droite. Il y a des gens qui trouvent que le gouvernement est trop gros. Des 11 milliards de déficit, ils n'en veulent plus. 10 000 fonctionnaires de plus, ils sont écœurés. On a un État énorme et des services qui sont constamment en diminution. Les prestations de services. On a un gros panier de services, mais nos services sont déficients. T'appelles au gouvernement, t'as pas de réponse, t'attends pour une garderie, t'attends pour l'école, manque de profs, les hôpitaux, un an et demi avant de voir un spécialiste. Alors, moi, je pense qu'on est mieux pour avoir un point de vue de droite. Et Duhem est capable d'amener ça dans l'espace public, à l'Assemblée nationale, et je pense que ça serait bon au plan démocratique. Je te dis pas que demain matin, il formerait un gouvernement majoritaire. La question, c'est pas ça. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut avoir quelqu'un qui va donner un bon coup de pied dans la ruche? Puis le coup de pied dans la ruche, mais c'est des élections partielles qu'on peut le donner. Et un vote pour le PQ changerait pas grand-chose, à mon avis, mais un vote pour Duhem changerait pas mal de choses. Ça changerait la donne. Et là, je trouve que M. Legault, qui a été élu à deux reprises avec un discours assez de droite, hein, austérité financière, moins de dépenses, moins de gouvernement, des jobs payants, il n'a pas livré au niveau financier. Alors, il y a tout un espace à droite qui n'est pas occupé actuellement au Québec. Puis, si Duhem est élu, bien, je pense que ça va être bon pour notre démocratie. Puis, à un an d'une élection générale, un an et quelques mois d'une élection générale, je pense que ce serait bon qu'on entende un point de vue différent.
Ben, il représente plus de 500 000 personnes, si on en croit les dernières élections. Puis effectivement, ce serait une voix peut-être différente à l'Assemblée nationale. Très souvent, on a l'impression que c'est deux, trois personnes qui donnent leur avis, alors qu'ils sont supposés d'être 125 avec des cerveaux, toute la gang. Mais c'est toujours les mêmes qu'on entend, puis c'est toujours les mêmes idées. Fait qu'ils pourraient brasser les cartes. Je vous rejoins sur le fait que certains peuvent être gênés de dire qu'ils votent pour Éric Duhaime en raison du fait que les médias qui ont fait la couverture de cette élection partielle-là, pour la plupart, sont toutes de centre-gauche. Donc, très souvent, on a tenté de mal faire paraître Éric Duhaime, mais ça, c'est mon opinion à moi. Et j'ai l'impression qu'il va rejoindre, parce que les gens qui sont en théâtre de guerre actuellement, là, dans le secteur d'Arthabasca, autant du côté conservateur que du côté des péquistes, là, ce qu'on m'a dit, c'est que Victoriaville, c'est très, très Alex Boisseneau, donc c'est très péquiste. l'Est. Et quand on sort de Victoriaville, ce qu'on me raconte, un peu plus en banlieue là, et en campagne, ce qu'on me raconte, c'est que c'est très Parti conservateur du Québec. Éric Duhaime qui a fait une campagne avec des slogans, c'est « Mon char, mon choix ». Il veut militer contre la bourse du carbone au Québec, même si le Parti québécois a tenté de discréditer Éric Duhaime en disant « Non, il n'y a pas de taxe du carbone, ça c'était au Canada, au Québec, on n'a pas de taxe du carbone ». C'est jouer un peu avec les mots, là. C'est entre 10 et 20 cents du litre qu'on paye en trop qui sont en raison de la bourse du carbone. Et ça, Éric Duhaime l'a bel et bien mentionné en débat. Alex Boissonneau aussi, qui pendant le débat sur les ondes de LCN n'a pas très bien paru. Honnêtement, ça m'a surpris. Éric Duhaime a été un animateur de radio, capable de débattre, capable d'être très rapide sur les réponses. Dans le cas d'Alex Boissonneau, ça a été très difficile et on dirait que tout le monde l'a attaqué, lui. Même, il s'est présenté sous le mauvais parti. Je ne sais pas si vous avez entendu ça.
Oh, bon, oui.
Il a dit « Bonjour, mon nom, c'est Alex Boissonneau. Je suis candidat pour la coalition à venir. Qu'est-ce que je dis là? » Il était extrêmement nerveux, donc très mauvaise performance. Mais vous me dites que c'est probablement Duhaime qui pourrait peut-être passer. Moi, on dirait que j'ai l'impression que ce sera Alex Boissonneau qui passera demain. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a probablement des gens qui sont entrés dans le sondage en disant « Non, moi, je vais voter pour Alex Boissonneau » et qui vont peut-être voter pour Éric Duhaime. Fait que je suis un peu ambigu, là, honnêtement.
Non, mais il n'y a pas de gêne à voter, à dire publiquement autour d'un café au Normandin, là, il n'y a pas de gêne à dire que tu votes pour le PQ dans la partielle d'Arthabasca. Mais quelqu'un qui dit « Moi, je vote pour Duhaime », il y a une petite gêne parce que t'es à part. Puis je le dis, tous les sondages, et ça de longue date, là, au Québec, dire que t'es conservateur, c'est pas winner. Tout de suite, il y a des gens qui te regardent. Pourquoi? Ben là, franchement, ça a été ça avec Poilievre, c'était ça avec Harper. Pourtant, Harper a eu 3 gouvernements, pas nécessairement avec l'aide du Québec, mais celui de 2011 a été quand même majoritaire. Alors, il y a un vote conservateur au Québec qui est plus sournois, qui est moins olé-olé, moins explicite, moins apparent, mais qui est là. Et je pense que les gens écœurés, il y en a beaucoup, qui sont écœurés parce que là, il y a un écœurite par rapport à la CAQ, mais je pense qu'il y a un écœurite un peu plus généralisé par rapport à l'ensemble des institutions. Les finances, les gouvernements, les élus, les ministres, les Hydro-Québec, le ministère de l'Éducation, le réseau des garderies, les gens sont écœurés, on le sent, il y a comme un roll-ball. Alors, si tu es écœuré puis que tu veux marquer des points, ben tu peux voter pour le PQ, c'est sûr, mais dans une partielle, je pense que il n'y a pas de risque d'ailleurs à voter pour... Les Québécois aiment ça voter quand il n'y a pas de risque, on le sait avec l'histoire du Bloc québécois. Depuis une trentaine d'années, même plus que ça, les Québécois votent bloc au fédéral parce qu'il n'y a pas de risque. Quand il n'y a pas de risque, les gens sont plus courageux, tu remarqueras ça. Alors, il n'y a pas de risque à voter pour Duhaime ici parce qu'il n'y aura pas de conséquences, sauf un député élu, mais il n'y aura pas de gouvernement conservateur, mais ils ne seront même pas minoritaires conservateurs, il y aura un seul élu sur 125. Mais je pense que M. Legault, il souhaite que Duhaime soit battu davantage, à mon avis, parce que Duhaime viendra occuper l'espace centre-droite de façon plus explicite, un espace immense qui est absolument ignoré actuellement par les partis politiques, sauf peut-être pour quelques projets de loi, comme le projet de loi que Jean Boulet, le ministre du Travail, a apporté pour essayer de moduler le droit de grève, tu sais, sauf quand la sécurité était menacée, puis tout ça, ça c'est un clin d'œil à droite, mais en dehors de ça, la CAQ, c'est gauche partout, là.
Maître Bellemare, moi, mon coup sur la gueule, là, ce serait à Québec solidaire de nous présenter une candidate qui sera même pas là lors de la journée des élections. Une candidate qui est en France actuellement, Pascal Fortin. Québec solidaire, ça vole pas où, là, sérieusement, dans les derniers mois. Depuis le départ de Gabriel Nadeau-Dubois en congé de paternité, là, c'est une catastrophe, qu'est-ce qui se passe avec ce parti-là. Puis, on est tombé sur une candidate qui devait s'absenter pendant les élections, ce qui est un peu hallucinant. Là. C'est invraisemblable. Là. Imaginez-vous si le Parti libéral avait présenté un candidat ou une candidate comme ça, ou si la Coalition Avenir Québec avait fait la même affaire avec Alex Boissonneau. Ah, Alex Boissonneau est à Cancun. Là. C'est la journée des élections. Alex Boissonneau est à Cancun. C'est n'importe quoi, ça.
Oui, mais c'est ça. Mais ça va pas bien chez les solidaires. Puis ça, évidemment, c'est un... C'est un élément qui va jouer en faveur de M. Boissonneau, parce que les solidaires d'Arthabasca qui seraient déçus de voir que la candidate Mme Fortin est même pas là le jour de l'élection, est en vacances en plus, c'est pas parce qu'elle est malade qu'elle n'est pas là, parce qu'il y a des candidats, des fois, qui sont malades, ça peut arriver, c'est pour une bonne raison, mais là, elle s'en va en vacances, ça fait dur. Alors ça, ce vote-là pourrait profiter à M. Boissonneau, parce que le parti qui est le plus proche de QS au niveau social-démocrate,
c'est le Parti québécois.
C'est le PQ. Ouais. Ça pourrait jouer dans la balance, effectivement. Mais quelle mauvaise sortie! Puis en plus, tu as vu son explication qu'elle a donnée? Elle a dit aux journalistes, je pense que c'est à LCN hier, elle a dit « Je ne sais pas vous, là, mais moi, je n'ai pas les moyens de perdre 10 000 piastres pour une élection. » 10 000 piastres. Alors, elle dit finalement que ses vacances, ils coûtent 10 000 piastres pour aller en Europe. C'est certainement le cas parce que l'Europe, c'est pas donné, surtout ça va en France. Mais je me suis dit, l'auditeur moyen, lui, qui est jamais allé en Europe, puis qui a de la misère à trouver 1500 piastres pour trouver des campings, puis payer son gaz pour aller passer une semaine ou deux de vacances au lac Saint-Jean ou en Gaspésie, qui voit ça, une solidaire qui met 10 000 piastres dans ses vacances. Ça fait pas trop socialiste comme argument. Alors, son argument était mauvais aussi.
Ouais.
Pas de coaching, pas d'encadrement. Et on se souvient, dans Terrebonne, la candidate, je pense que c'était une femme dans Terrebonne, dans la dernière élection partielle, qui avait déploré le fait qu'il n'y avait aucun représentant important du parti qui était là le soir de l'élection, pour l'accompagner, pour son discours de remerciement. Ça va pas bien, Québec solidaire. Moi, je pense qu'ils sont complètement désorganisés. Puis, encore là, dans une, à moins qu'il y ait un redressement spectaculaire, ce qui s'annonce pour 2026 dans l'élection générale, c'est que probablement que QS va faire une très mauvaise performance. Puis encore là, ça va profiter au Parti québécois, parce que c'est sûr que Paul Saint-Pierre Plamondon doit être bien content de voir que QS est en train de s'effoirer.
Effectivement. Mmh. Autre sujet que je voulais aborder avec vous, l'an passé, à pareille date, Maître Bellemare, on parlait de pénurie de main-d'œuvre dans le merveilleux monde de l'éducation. Ben hier, Bernard Drinville, qui est sorti, toi, sur les ondes d'LCN, en disant « Là, là, pour la rentrée scolaire, il manque de tout. Il manque des orthopédagogues, il manque de psychoéducateurs, il manque de professeurs, il manque de psychologues, il manque d'orthophonistes. Encore une fois, l'éducation est dans le trouble. Année après année, aux mêmes dates, on revient tout le temps avec les mêmes affaires. Puis ça coïncide aussi avec le fait que cet été, bien, on y allait avec des grosses coupures du côté de la Coalition Avenir Québec. On voulait couper plus de 500 millions de dollars, 510 millions pour être plus précis. Ça a semé la panique chez les professeurs et chez les dirigeants du réseau de l'éducation pour finalement avoir tellement de plaintes qu'on fait un volte-face et qu'on réinvestit 540 millions. Et là, ben, à pareille date l'an passé, on parlait de pénurie de main-d'œuvre. Ben, cette année, même chose, pénurie de main-d'œuvre aussi. Quand vous étiez chez les libéraux, vous n'avez pas été là longtemps, là, mais y a-tu des briefings qui se faisaient sur « OK, ça fait 10 ans en ligne qu'on vit la même affaire. » Exemple, dans le réseau de la santé, chaque fois que c'est le temps des fêtes, chaque fois que c'est le mois de janvier, ben on a un problème de civières. Il n'y a pas assez de civières pour le nombre de malades. On peut-tu, cette année, fournir le bon nombre de civières pour le bon nombre de malades? Aviez-vous des briefings d'avance pour planifier ce qui arrivait? Parce que visiblement, du côté de l'éducation, toutes les partis politiques qui sont passés, qui ont été au pouvoir, n'étaient pas capables de planifier qu'est-ce qui allait arriver année après année, alors que c'est toujours le maudit même jour de la marmotte avec Bill Murray.
Oui, c'est ça. Mais écoute, moi, j'étais là en deux, ça fait déjà plus de 20 ans. Puis à l'époque, on avait des briefings pour nous informer qu'il y aurait, à court terme, une pénurie de main-d'œuvre à cause du vieillissement de la population. Les gens prennent leur retraite. Il y a de plus en plus de personnes âgées. Les gens vivent de plus en plus longtemps. Il y a de moins en moins de jeunes, il y a une dénatalité au Québec, donc on essaie de combler ça par l'immigration, mais ça entraîne aussi des coûts parce qu'il faut les intégrer, les immigrants. Il faut envoyer leurs enfants à l'école, il faut leur apprendre le français. Ils ont des besoins en termes de services de garde aussi, ils veulent travailler. Alors, on est dans une véritable difficulté. Je ne sais pas comment on va être capable de sortir de ça parce que tu as beau avoir trois, quatre diplômes. Il manque de bipèdes, là. Il manque de gens pour faire la job dans tout. Et on le voit dans tous les services. Je ne sais pas quel genre d'été tu as passé, toi, dans la restauration, dans les services de transport, dans les commerces en général. Il manque de monde. Il y a pas de, dans les hôtels, c'est assez criant. En fin de semaine, j'étais dans un hôtel dans la région de Québec. Et puis, c'est une dame qui est une Chinoise qui m'a reçu. Et puis, elle était toute seule. Puis, elle avait bon, des gens qui s'occupaient des chambres, mais en nombre insuffisant. Et l'hôtel laissait à désirer, malgré le prix, parce que les prix montent, parce qu'ils ont besoin d'avoir une certaine rentabilité. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Il y a moins de services, mais en même temps, les prix montent pour qu'ils soient capables de payer l'ensemble des frais de plus. Écoute, ça va pas bien, là. Partir en affaires aujourd'hui, je sais pas comment tu peux faire, mais... Ça, il faut trouver de la main-d'œuvre et c'est très compliqué. Et dans les écoles, c'est encore pire parce que ça prend de la main-d'œuvre qualifiée. Si tu veux, un orthopédagogue, ça se forme pas dans 2 minutes, là. Alors, on a un problème et je pense que le Québec se dirige tranquillement pas vite vers des difficultés croissantes de ce côté-là. Et puis nos enfants, ben, je sais pas. Moi, mes enfants sont tous allés au privé. J'ai eu cette chance-là d'avoir des revenus qui m'ont permis d'envoyer mes enfants au privé. Mais dans le réseau privé, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Mais ça vient drainer, bien sûr, du personnel qui pourrait aller au public autrement. Mais dans les écoles, on manque de monde. Puis là, on a de plus en plus d'élèves. M. Drainville a raison. Trudeau a laissé rentrer beaucoup, beaucoup de monde dans ses politiques d'immigration, ce qui est pas mauvais au plan humanitaire. Mais c'est le Québec qui a juridiction dans l'éducation, c'est pas le fédéral. Alors nous, on a les pouvoirs de légiférer et d'éduquer les jeunes arrivants et les jeunes Québécois, mais il y a de plus en plus de demandes, il y a de moins en moins de personnel. Moi, je vois pas à court terme, en tout cas pour les 10, 15 prochaines années, je vois pas d'amélioration de ce côté-là. Je me demande comment on va réussir à sortir de ça si on n'a pas plus de personnel.
Mais Maître Bellemare, sachant qu'année après année, on accueille plus de monde au Canada, puis avec le panier de services qu'on a au Québec, la majorité des immigrants vont regarder les paniers de services au Canada. Bon, moi, je suis quelqu'un de moins bien nanti. Où est-ce que je pourrais aller? Où est-ce que je pourrais être bien? Oh, au Québec, le panier de services est assez intéressant pour une personne immigrante comme moi. Mais le sachant qu'ils s'en viennent chez nous, on ne peut pas prévoir ça d'avance sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Dans une entreprise privée, la croissance dépend justement de la vision des entrepreneurs. Donc, OK, où est-ce qu'on va être dans 1 an? Où est-ce qu'on va être dans 3 ans? Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous prend? C'est quoi les objectifs qu'on doit se fixer à court, moyen et long terme pour arriver justement à ce 3 ans-là où on va être rendu à l'apogée de notre entreprise, de la business, tu sais. Visiblement, au Québec, ça ne semble pas... Il ne semble pas avoir de planification en ce sens. Puis je reviens avec mon idée là, du mois de décembre, mois de janvier, en santé. On le sait qu'on va avoir des problèmes, qu'il va manquer de civières. Pourquoi on n'essaye pas de prévenir ça d'avance? Y a-t-il des gens qui peuvent venir travailler, des gens de la France, exemple, qui peuvent venir temporairement au Québec pendant le temps des fêtes pour pallier justement aux équipes qui prendront des vacances? Y a-t-il des gens d'ailleurs qui veulent venir ici faire un coup d'argent pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? On n'est pas capable de le faire, Maître Bellemare. Je trouve ça curieux. Dans n'importe quelle entreprise privée, tous ces gestionnaires-là qui sont passés en centré se feraient sacrer dehors. Bien, nous autres, on les garde, puis année après année, on fait toujours les mêmes erreurs. À toujours refaire la même chose, puis avoir le même résultat, un résultat qui est mauvais, bien, c'est un peu de la folie de continuer comme ça en disant un jour, ça va changer. Là. Pas moi qui ai dit ça, je pense que c'est Einstein.
Depuis que Legault est élu, depuis 2018, je crois, il y a eu une augmentation d'à peu près 10 000 fonctionnaires, d'après ce qu'on dit. M. Drainville, le ministre de l'Éducation, nous dit que le budget augmente en général à peu près 7 % par année. La dernière année, il a augmenté de 5 %, donc il dit que ce n'est pas une coupure. Il y a une augmentation, mais qui est moindre que les autres années. Mais moi, je pense que je pense que c'est 26 milliards qu'on donne par année au niveau du réseau de l'éducation. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent, d'après moi. Mais ils n'osent pas le dire parce que le gouvernement ne viendra jamais dire on n'a pas d'argent pour embaucher et former davantage de psycho-éducateurs, d'enseignants pour notre réseau de l'éducation. Mais d'après moi, il y a des contraintes budgétaires. Et il y a un problème de main-d'œuvre. Alors, pour former des enseignants, pour former du personnel dans les écoles, tu ne formes pas ça dans les écoles de métier, tu formes ça dans les universités, dans les cégeps. Puis moi, j'ai l'impression qu'ils disent, on a tant d'argent pour la masse salariale, qu'on n'est pas capable de payer les salaires des éventuels psychologues, des éventuels travailleurs sociaux, puis psycho-éducateurs qui travailleraient dans le réseau. Le gouvernement ne nous le dira jamais. Le ministre de l'Éducation ne peut pas se présenter devant l'électorat et dire on n'a pas les moyens d'avoir plus de personnel pour servir vos élèves puis avoir un meilleur ratio dans les classes. Mais je pense que ça joue. Je pense que ça joue définitivement parce que le gouvernement n'a pas une scène. Québec est un pays pauvre, là. Tu regardes ça, là. Les routes, là, c'est l'enfer, là. Les transports, la santé, l'éducation, les trois grandes missions de l'État québécois sont en banqueroute. Il n'y a plus rien qui marche. Et moi, j'ai l'impression que même si c'est un autre gouvernement qui est élu en 2026, ben, je ne pense pas que ça change grand-chose parce qu'on a un problème de richesse aussi. Développer notre richesse, développer nos richesses naturelles, c'est tous des thèmes que Duhem pourrait développer s'il était élu. Mais la richesse, ça ne viendra pas tout seul, là.
Je sais pas si vous avez vu ça passer. Ça se passe pas chez nous, Maître Bellemare. Ça se passe en Nouvelle-Écosse. On parle de mesures excessives de la part du gouvernement en place parce qu'on craint qu'il y ait des incendies de forêt. Et le ministre de la Nouvelle-Écosse, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, qui mentionne, Tim Houston, qui mentionne que suivi la recommandation des experts. Donc, si vous voulez aller vous promener aujourd'hui en Nouvelle-Écosse dans le bois, ben vous risquez une amende de 25 000 $. Pas si vous faites un feu là, dans la forêt, alors que c'est interdit. Si vous allez vous promener avec votre bouteille d'eau dans le bois, là, juste pour une petite marche, ou encore vous allez vous promener avec votre animal de compagnie dans le bois pour une petite marche, en Nouvelle-Écosse, c'est 25 000 $ d'amende.
Ouais, il a peur que vos pas ne stimulent le côté, je sais pas moi, le côté feu du sol, du plancher, je sais pas comment est-ce qu'il voit ça.
On a suivi la recommandation des experts. Maître Bellemare, un expert en 1980 qui vous dit, savez-vous quoi? Les temps sont un peu, c'est assez sec, là. Il n'y a pas mouillé ben. Allez pas dans le bois parce que sinon c'est 25 000 $ d'amende. En 1980, cet expert-là, on l'envoie à l'asile psychiatrique, là. Mais en 2025, on dit, ah oui, ça a bien du bon sens. Allez pas vous promener dans le bois. Savez-vous, il y a combien de personnes qui vivent en ville en Nouvelle-Écosse? 40 %. Ça veut dire qu'il y a 60 % des gens qui vivent dans le bois.
Les villes dans le bois, pas loin du bois.
Et là, on leur interdit d'aller faire une balade dans les bois, Maître Bellemare, parce qu'on a peur qu'il y ait des incendies qui arrivent. Et il y a des gens qui cautionnent ça, là, cette décision un peu conne du gouvernement de dire, allez-vous pas vous promener dans le bois, sinon c'est 25 000 $ d'amende. J'ai l'impression qu'on est excessif par rapport. Puis peut-être que c'est depuis la pandémie, là, on s'est rendu compte que quand le gouvernement passe des interdictions, ben les gens écoutent puis sont très dociles. Là, qu'on y est avec une amende de 25 000 pour une personne 80 ans qui va promener son petit chien dans le bois, 25 000 $, je trouve ça totalement débile. Totalement débile.
Mais les feux de forêt, c'est vraiment une plaie, hein?
Ben oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais je suis
Dans
d'accord
le
avec
fond,
vous.
si ce n'était pas de ça, il n'y aurait pas de nouvelles de l'été, là. Il y en a un petit peu plus avec les feux de forêt. Tu es rendu que Radio-Canada ouvre son bulletin en nous parlant des incendies à Nouvelle-Écosse, justement, dans les Maritimes ou dans l'Ouest, etc. Parce qu'au Québec, on est relativement épargné cet été. Mais écoute, c'est effectivement une problématique avec le réchauffement climatique. C'est un autre problème, mais là, comment est-ce qu'on va pouvoir régler ça? C'est impossible, là.
Parce que dans
la
des...
température réchauffe, puis
ouais.
le feu poigne dans le bois, puis...
Mais maintenant, avec cette température-là, je comprends que l'expert dise « Monsieur Bellemare, vous êtes le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, c'est 25 000 piastres d'amende si les gens allument un feu dans la forêt ou s'ils sont responsables d'avoir allumé un feu dans la forêt, c'est 25 000 piastres d'amende. » OK, ça
c'est... S'ils vont dans la forêt ou s'ils mettent le feu?
Ben, s'ils vont dans la forêt et ils font un feu ou s'ils vont dans la forêt et ils mettent le feu, c'est un 25 000 piastres d'amende plus de la prison dans ce cas-ci. Mais d'interdire à quiconque d'aller se promener dans le bois, je veux dire, jusqu'où on est capable d'aller sans que la Charte des droits et libertés embarque, là? Comment le gouvernement peut interdire à sa population d'aller se promener dans le bois tout simplement? On fait pas de mal à personne, là.
C'est sûr. Mais avec la température qu'on a ces jours-ci, là...
Ah, moi, j'accepte pas ça. Y a pas, c'est indéfendable, maintenant.
Non, mais je sais que c'est indéfendable, mais il reste que, avec la température qu'on a ces jours-ci, l'indice de feu, là, l'indice de risque associé à un feu de forêt ou un feu de camp est extrêmement élevé, as-tu pensé? Tu sors dehors, tu as l'impression d'être dans un sauna. Il allume un feu n'importe où, là, ça part, là, puis c'est... Tu ne peux pas arrêter ça. C'est impossible.
Non, je suis d'accord.
Mais je comprends que c'est radical comme solution, mais la Nouvelle-Écosse, c'est une petite province. Hein, c'est pas grand. Et puis, moi, j'ai l'impression que le PM a décidé ça quand il était à court de solution pour régler ses problèmes de feu, là, parce qu'ils en ont eu cet été beaucoup en Nouvelle-Écosse.
Oui.
Actuellement, il y en a aussi.
Mais comment un gouvernement peut en venir là, Maître Bellemare? C'est ce que je me pose comme question. Interdire à quiconque de se promener dans le bois, pas d'allumer un feu, là, ce serait logique, mais interdire à quiconque d'aller dans le bois, puis que ce soit des recommandations des experts, puis que les policiers appliquent ça, Maître Bellemare. Là. Fait que là, moi, mon petit gars, là, décide avec un de ses chums d'aller se promener en vélo dans le bois, là, puis il arrive à la maison, puis là, il y a une amende de la part des policiers. Là. Il n'a pas fait de feu. Là. Il est allé se promener dans le bois. Maître Bellemare, moi, je trouve ça inacceptable. Même si on est au Québec, là, moi, je regarde ça. Puis je sais que ça va être challengé en cours, bien entendu, puis que le premier ministre de la Nouvelle-Écosse est un peu embêté d'avoir pris cette décision-là, parce que c'est toujours bien lui qui a cautionné ça. Mais lui, il ne sortira pas de ça indemne. Là.
Alors, c'est pas le temps d'aller à la Nouvelle-Écosse de ce temps-là. Là.
Ben, allez pas dans les parcs.
Pendant les vacances à la construction, il y a pas mal de Québécois qui sont allés là. Mais c'est peut-être pas la meilleure place où aller actuellement. Mais tu sais, c'est des mesures extrêmes de style pandémie. On en a vécu, des restrictions aux libertés. Et toutes nos chartes permettent, si on peut justifier la mesure dans un monde libre et démocratique, si on peut justifier la mesure... À partir d'expertise, à partir d'une preuve, la loi est maintenue par les tribunaux. Il n'y a pas une charte qui s'applique de façon absolue, mais c'est sûr que le fardeau de la preuve repose sur celui qui a enfreint la charte et qui a supprimé des libertés. Puis dans ce cas-ci, ce serait le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Mais le temps que ça se retrouve en cours et que ça monte les échelons, Cour supérieure de la Nouvelle-Écosse, Cour d'appel, Cour suprême éventuellement sur permission... on va être dans la neige, là, depuis une couple d'années. Il n'y aura pas de feu.
Effectivement. Puis avant de commencer avec d'autres sujets, Maître Bellemare, je vais vous parler de mon champion du jour. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'est sous la plume de Judith Desmeules dans Le Soleil. Ça se déroule dans la MRC de Kamouraska. On parle d'un jeune homme de 18 ans qui, samedi, a décidé, vers les alentours de 23h30, 23h40, de faire de la moto, mais avec juste une roue, à une vitesse de 185 km/h, dans une zone de 90 km/h.
Il n'est pas majeur.
Il a 18 ans, il est majeur.
Ah, OK, enfin, on va avoir peut-être un peu plus de justice.
Les policiers l'ont suivi pendant quelques kilomètres, là, parce que, veux pas, ben, quand on entame une poursuite avec une moto, il y a des chances que la personne décide d'accélérer. Puis à un moment bien précis, on réussit à l'intercepter, ce qui fait en sorte que, ben, on lui a posé quelques questions, on lui a fait souffler la ballonne, Maître Bellemare. Puis en plus de ça, ben, il était sous et probablement gelé aussi. On lui a donné quatre premiers points d'inaptitude pour avoir consommé avant de prendre la route, ainsi qu'un premier constat d'infraction de 400 $. Par la suite, il a reçu un deuxième constat d'infraction de 961 $ pour avoir fait une manœuvre susceptible de mettre la vie en danger, assorti de quatre autres points d'inaptitude, et il a reçu un autre constat du même montant pour le grand excès de vitesse. En tout, c'est plus de 18 points d'inaptitude qu'il a eu. Et pour ce qui est des amendes, ben, le jeune homme de 18 ans a eu 2 500 $ d'amende. Et là, ben, comme il a été pris avec les facultés affaiblies, ben, il devra
Il y aura des accusations criminelles.
Il devra
faire
face à la justice.
Parce que c'est là que ça fait mal. C'est là que ça fait mal, Yann, parce que tout ce que tu me dis, c'est bien. Là, c'est des amendes. Des amendes, c'est de l'argent. Puis il y a bien des gens qui vont te dire, « Ah, tant que c'est de l'argent, puis que je garde mon permis, que je garde ma liberté de circuler, il n'y a pas de problème. » Il y a des gens qui sont prêts à payer des amendes assez chères. Probablement que ce jeune-là n'a pas les moyens, puis ça lui fait mal aussi, là. Mais il reste que là où ça fait vraiment mal, c'est quand il y a des accusations de nature criminelle, où là, il y a une privation de liberté réelle, il y a une sanction, possiblement, il y a une perte de liberté et il y a possiblement aussi de l'emprisonnement. Alors là, ça commence à être plus intéressant. Si le DPCP tient son bout, il pourrait avoir une peine qui aurait de l'allure. Puis ce jeune-là pourrait comprendre que son geste est inacceptable. Parce que c'est vrai qu'à cette vitesse-là, il aurait pu tuer quelqu'un. Là. C'est toujours pareil.
Il aurait pu se tuer, il aurait pu tuer quelqu'un, mais 187 km/h sur une roue, Maître Bellemare, à moto, ouais. Je veux dire, puis il était complètement sous. On parle d'un jeune homme irresponsable. Moi, je suis un père de famille, je suis encore un jeune père de famille. J'ai deux petits gorlots à la maison, un 9 ans puis un de 12 ans. Et c'est sûr et certain que je leur parle de ce genre de gestes-là qui sont posés par de jeunes conducteurs. Dans ce cas-ci, c'est un motocycliste. J'ai regardé les statistiques, Maître Bellemare, là, pendant les vacances de la construction, entre le 18 juillet et le 3 août, il y a eu des collisions à la grandeur du Québec. Ça a fait 38 morts sur les routes et les motocyclistes représentent la moitié des accidents mortels.
Oui. Mais as-tu vu les routes qu'on a, là? Regarde, moi, je suis monté hier au lac Beauport. J'ai pris l'autoroute Laurentienne vers le nord, évidemment, puis il y a des espèces de crevasses dans le chemin, là. Tu sais, je ne sais pas si c'est les vannes qui font ça, il y a des espèces d'ourlets, là. C'est comme ça qu'on appelle ça. L'espèce de... Tu t'en vas avec ton char, là, puis ça se met à balloter de gauche à droite sur une assez longue distance, en plusieurs kilomètres. Et sur la route qu'il y a entre l'autoroute Laurentienne et le lac Beauport, c'est la même affaire, là. C'est incroyable, ouais. Écoute. Alors, on a des routes de merde, là, tu sais. Pour les motos qui ont plus ou moins de contrôle, qui sont juste sur deux roues, mais c'est extrêmement dangereux parce que tu peux avoir des pertes de contrôle. Je te dis pas que c'est juste ça qui joue, mais je te dis que le réseau routier aide pas. La qualité du réseau routier aide pas.
Puis, est-ce qu'un jour, on va se pencher sur la loi du plus bas soumissionnaire? Parce que l'entrepreneur, lui, quand il soumissionne pour un contrat avec le MTQ, exemple, ben lui, c'est un entrepreneur. Son objectif, c'est pas de perdre de l'argent. Puis, il y a peut-être 20 entrepreneurs qui vont vouloir le contrat. Ben quand ils l'obtiennent, ils veulent pas perdre de l'argent, Maître Bellemare, et c'est les plus bas soumissionnaires. Donc, est-ce que ça peut faire en sorte que ces gens-là, même s'ils sont surveillés ou entre guillemets surveillés, devrais-je dire, est-ce que ça pourrait faire en sorte que ces gens-là tournent les coins ronds pour être sûr et certain de ne pas manger de l'argent sur chaque contrat? Est-ce qu'on pourrait les rendre responsables pendant 5 ans d'un certain tronçon d'autoroute dont ils sont responsables? Quand on donne un contrat pour, je ne sais pas moi, la réfection de la 40 ou de la 20, ben ce tronçon-là, c'est toi qui es responsable, c'est toi qui refais l'asphaltage ou c'est toi qui refais la route au grand complet, ben tu vas avoir une responsabilité sur ce tronçon-là pendant 3 ans ou pendant 5 ans. Puis il y aura un prix qui viendra avec ça, bien entendu, mais de voir que la grandeur du Québec, les routes sont détruites. Je regardais à Montréal, tu sais, des routes qui sont pavées, surpavées. Là, c'est des nids de poules. Là, on remet un peu d'asphalte là-dessus, ça fait une petite bosse. Fait que, donc, ça fait une asphalte bosselée. On roule là-dessus, c'est d'un ridicule et honteux.
Il y a quelques années, on riait des Mexicains et des Républicains. On allait là pour dire, as-tu vu les routes qui ont, ça a-tu de l'allure? Mais je vais te dire une affaire, là. Par bout, on est pire qu'eux autres.
Alors, on dirait qu'on est en temps de guerre, Maître Bellemare. On dirait qu'il y a eu des missiles sur ces routes-là, sans trop exagérer. Hey, parlons de guerre, Maître Bellemare, avant la pause. On est en train de voir un génocide en temps réel entre Israël puis la Palestine?
Oui, puis moi, je pense que ça va continuer. Je vois pas de fin à ce conflit-là. Moi, j'ai l'impression que Gaza va être, la bande de Gaza va être complètement éradiquée. Parce qu'on a un président américain qui est là depuis, qui est en poste depuis le mois de janvier de cette année, 2025. Il ne faut pas oublier ça, là. Donald Trump, ça ne fait pas un an qu'il est en poste, là. Ça fait deux tiers d'une année, depuis le 20 janvier 2025. Alors, lui, il appuie Netanyahou de façon explicite. Il envoie de l'argent, il envoie des armes, il envoie de l'expertise à Israël. Alors, Netanyahou l'a dit, nous autres, on va se battre, on va pourchasser sur la bande de Gaza les terroristes du Hamas et on va libérer les otages. Je pense qu'il en reste 25-30 là, qui ne sont pas encore libérés,
Bon, en fait, ce serait
qui
autour de
sont encore
50.
vivants.
Oui, c'est ça. Et ce serait autour de 50, mais la moitié serait morte.
Bon. Et moi, c'est devenu bien sûr le prétexte. Puis le Hamas joue là-dessus beaucoup parce qu'il provoque Netanyahou. On a vu la semaine passée des images terribles d'otages amaigris, presque moribonds. Donc des vidéos des otages qui étaient diffusés en Israël. Alors ça radicalise la population d'Israël. Mais à partir du moment où Netanyahou a le feu vert de Donald Trump, qu'il nourrit puis qu'il l'appuie explicitement, puis même si Trump pète demain matin, c'est J.D. Vance qui va être là encore au moins pour la fin du mandat. Les républicains, Trump et Vance, sont là pour 4 ans. Alors, à tous les jours, il y a des centaines de morts qui s'additionnent. Honnêtement, je ne vois pas la fin. Moi, j'ai l'impression que la fin, ça va être quand la bande de Gaza va être complètement ruinée. Et les quelques survivants vont se retrouver en Jordanie ou en Égypte. Parce qu'ils peuvent pas vivre en Palestine. Alors, c'est sûr que le Canada là veut reconnaître un État palestinien, l'Australie. Il y a bien sûr des pays dans le monde qui vont dire nous sommes favorables à un État palestinien, mais ça vaut quoi à côté de l'appui de Donald Trump à Israël, inconditionnel à Israël? La réalité, c'est ça qui se passe. Quand même, tu aurais une trentaine de pays demain matin qui disaient ben on veut un État palestinien. C'est pas ça qui se passe, et là, ça fait un bout de temps, là. C'est le 17 octobre 2023, je crois, l'attaque du Hamas qui avait fait 1 700 morts à Israël. Là encore, de travers dans la gorge. Puis même si Netanyahou est pas, il n'y a pas 90% d'Israël qui l'appuie, puis qu'il y a des manifestants, mais il y a-tu des pays dans le monde où il y a 90% des gens qui appuient le gouvernement? Tu sais, au Québec, la CAQ a à peu près 15% d'un sondage, 20%. Puis ils sont élus avec 30-quelques% de l'électorat. Alors, Netanyahou est du côté très à droite religieuse là-bas, puis lui, il en veut à Gaza à plein, puis il continue son offensive. Puis je sais pas comment qu'est-ce qui pourrait l'arrêter, honnêtement. Peut-être un décès, mais tant qu'il est sur ses deux pattes, puis que Trump va être là derrière lui. J'ai l'impression que, oui, c'est un génocide, mais j'ai l'impression que ce génocide-là n'est pas complet et qui va se détériorer, qui va se compléter tranquillement, pas vite, au cours des prochains mois.
Ben Delmore, tu sais,
Je ne vois pas de fin.
ben c'est parce que
On peut
actuellement.
commenter, puis on peut déplorer, mais je ne vois pas de fin. Je ne sais pas.
Actuellement, le Hamas là, garde les otages parce que c'est leur seul moyen de moyenner. C'est parce que sans les otages, le Hamas a pas de levier. Est-ce qu'on doit reconnaître la Palestine comme étant un État? Ben, possiblement qu'un jour on le fera. Mais actuellement, ce qu'il est en train de faire là, Maître Bellemare, on parle de 60 000 victimes dans ce
Oui.
conflit-là. On parle pas de victimes qui sont des soldats là, qui acceptent d'aller au combat puis peut-être même de perdre la vie. On parle de victimes collatérales. Le Hamas est au travers de la population et quand on bombarde des grosses têtes du Hamas, ben, on tue des innocents, des femmes, des enfants. On détruit toutes les infrastructures au niveau de l'eau, l'eau potable, la nourriture aussi, qui est extrêmement difficile à trouver. Là, c'est une catastrophe humanitaire. C'est des maladies qui vont émerger de tout ça parce que ces gens-là n'ont pas accès à des soins, ils n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, vous comprendrez que ces gens-là doivent pas prendre leur douche ben ben. C'est une catastrophe humanitaire qu'on vit là actuellement. Puis pour ce qui est des autres pays autour, veulent pas trop prendre les Palestiniens parce qu'ils ont peur de bon, ben, comment ça va être perçu? Est-ce qu'on va amener le problème chez nous? Il n'y en a pas de sortie de conflit, si ce n'est que Donald Trump doit faire fi des gros lobbies juifs aux États-Unis, puis tenter de dire, ben là, à un moment donné, assez, c'est assez. Là. On va peut-être faire rentrer les Américains pour aller chercher les otages qui restent, parce que je suis pas mal persuadé, M. Bellemare, qu'on sait exactement où sont les otages. Mais pour le reste, il faut que ça cesse. 60 000 personnes qui sont disparues en raison des bombardements. L'accès à l'eau, des enfants qui boivent de l'eau polluée, puis
c'est terrible.
On assiste à ça, nous, en tant qu'Occident. Puis...
Oui, bien, on en a vu au Cambodge au début des années 70. Il y a 2 millions de morts affamés, tués, fusillés, épuisés. Puis la communauté internationale n'a presque pas réagi. En Ukraine, il y a une indignation de la part de la communauté internationale avec des actions. Parce que l'Ukraine est connectée sur l'Europe, ben c'est l'Europe de, c'est après l'Ukraine à l'Ouest, ben c'est des pays européens. Alors eux autres, ils veulent pas que Poutine continue son offensive vers l'Ouest. Et puis il y a des enjeux énergétiques, le pétrole russe, etc., le gaz. Alors là, il y a des enjeux économiques. C'est pour ça que Trump s'intéresse un petit peu plus à l'Ukraine. Avec l'Europe, mais la bande de Gaza, au-delà des vœux pieux, puis des reportages télé qu'on voit, puis de la famine, puis de l'indignation générale, il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont prises parce que Trump a choisi son camp puis a décidé d'appuyer Netanyahou. Alors
en raison des lobbies juifs là, qui sont très, très présents.
Oui, mais c'est ça, qui sont très importants. Il y a des fortunes aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains d'origine juive aussi. Et les États-Unis veulent avoir vraiment un pied à terre au Moyen-Orient. Alors, c'est une tradition. Les Américains ont toujours été relativement solidaires d'Israël.
Ben, c'est la seule démocratie. Israël, dans ce coin-là, c'est la seule démocratie. Là. Je veux dire, il y a à preuve, il y avait encore des manifestations contre Benjamin Netanyahou à l'intérieur d'Israël. C'est une démocratie, Israël. Donc, être derrière Israël, il y a une certaine logique à tout ça, mais c'est un conflit religieux. C'est plus un conflit qui
bien sûr.
C'est plus un conflit bien qui sûr. Est rationnel. C'est une religion contre une autre, puis on importe ça ici en Occident, cette guerre-là. Ça se traduit dans nos rues. Je ne sais pas si vous avez vu à Montréal, c'est extrêmement atroce. Là, un musulman qui décide de taper sur un juif qui est avec sa petite fille de 11 ans, je veux dire, que ça se pointe chez nous, ces conflits religieux-là, c'est juste hallucinant. Maître Bellemare, on va faire une courte pause, si vous le désirez bien. On va revenir tout de suite après la pause. Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir, comme à chaque lundi, d'être avec Maître Marc Bellemare de chez Bellemare Avocat, bellemareavocat.ca. On revient.
Marceau, le soir.
Boulevard 102.1.
Que tu prennes tes vacances ici ou ailleurs, peu importe quand tu pars et où tu vas, traîne Boulevard 102.1 dans tes valises. L'application Boulevard 102.1.
Les Grands Feux Loto-Québec, c'est du 31 juillet au 23 août à la Place des Canotiers et au Quai Paquette avec 8 fabuleuses thématiques. Le 21 août, joins-toi à nous pour la soirée de la Saint-Patrick présentée par Boulevard. Il y aura un défilé de la danse irlandaise, une dizaine d'artistes et des bandes. Reste à l'écoute cette semaine pour gagner 4 billets afin d'être assis confortablement dans la zone réservée. Boulevard et les Grands Feux Loto-Québec, fiers de te faire vivre l'été en grand.
Note de pamplemousse,
houblon, puis de vacances.
Hey, on est-tu bien? Chaloux, 1000 sortes de bières en inventaire. Chaloux, Beauport et Saint-Émile.
Tu es curieux, informé, tu rêves de faire de la radio? Viens suivre une formation en animation radiophonique et web au Collège Radio-Télévision de Québec. Enseignant issu du milieu, cours axé sur la pratique, diplôme en 2 sessions seulement, programme admissible aux prêts et bourses. Informe-toi dès maintenant. Détails au crtq.ca.
C'est maintenant ou jamais les prix employés chez Marlin Chevrolet Buick GMC. C'est le dernier mois pour en profiter sur nos camions 1500 et 2500. Obtenez jusqu'à 13 000 $ de rabais sur certains modèles. Passe-nous voir, choisis ton camion et repars avec un rabais aussi solide que ton prochain pick-up. Marlin Chevrolet Buick GMC, 2145 rue Frank-Carrel à Québec. Pour les meilleurs deals, c'est chez Marlin Chevrolet Buick GMC que ça se passe.
De jeudi à dimanche, ne manque pas le Festibière de Québec au Quai de l'Espace 400. Encore plus de musique avec Clay & Friends, DJ Champion et Caravane. Et encore plus de diversité dans ton verre. Bien en vente à la porte et au festibièredequébec.com. Une invitation de la Ville de Québec.
As-tu encore des nouvelles lunettes? Celle-là? Non, c'est mes lunettes d'été que j'avais déjà. Tu dois te tromper avec mes nouvelles d'automne.
Ben, coudonc, as-tu des lunettes pour toutes les saisons?
Ben oui. Pourquoi m'en priver avec les prix de Scoop Vision? Scoop Vision, les lunettes au prix du web.
De retour pour une deuxième année, la plus grosse convention internationale de tatouage au Québec, Québec Tattoo Show. Venez vous faire tatouer avec plus de 450 artistes provenant des quatre coins du monde. Découvrez les dernières tendances en matière de tatouage. Concours, spectacles d'humour, cracheurs de feu, DJ et encore plus. Nouveauté cette année, espace food truck avec animation. Du 22 au 24 août à Expo Cité. Billets au QuébecTattooShow.com. Présenté par Paradox Tatouage.
C'est le moment de foncer chez Volkswagen Saint-Nicolas pour vous procurer un ID4 2024. Écoutez bien ça. On vous offre jusqu'à 17 500 $ de rabais, les taxes incluses, 5 ans d'entretien gratuit sur les éditions Pro et du financement très avantageux à 0 % pendant 72 mois. C'est du jamais vu. Ces offres sont valides jusqu'au 2 septembre ou jusqu'à l'écoulement de nos stocks. Ne manquez pas votre chance. Volkswagen Saint-Nic, quand on dit offre exceptionnelle, on le pense pour vrai.
Imagine... un verre à la main, les pieds dans l'eau, de la musique dans tes oreilles. À Québec et à Lévis, grâce à la cour arrière. Retrouve ton concept estival préféré au Parc du Rigolet à Lévis et nouvellement au Grand Marché de Québec. Avec tous ses classiques, bassins rafraîchissants, musique live, cocktails et bières de micro, des soirées d'humour, des soirées country et plus encore. La cour arrière de Québec et de Lévis, tes incontournables de l'été, ouvert tous les jours.
Les inscriptions du Collège Barthes, c'est maintenant. Plusieurs de nos attestations d'études collégiales sont maintenant offertes du confort de chez toi. Informe-toi sur nos formations 100 % en ligne, en animation 3D, en programmation en jeux vidéo et en marketing des médias sociaux. Aide financière aux études admissibles. Détails sur barthes.ca.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien... vous allez le savoir aussi.
C'est simple. Ah!
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Comme à chaque lundi, on a le plaisir de passer la soirée en compagnie de l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare. Il est propriétaire du bureau bellemareavocat.ca. On parle de dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST une fois de temps en temps. Il a une expertise en ce sens depuis plusieurs années. Maître Bellemare, je veux vous parler d'un dossier qu'on a vraiment abordé à la radio la semaine dernière. On n'était pas ensemble parce qu'on n'avait pas la rentrée radiophonique encore, mais le dossier de Luc Merville, là... qui a été déclaré coupable d'agression sexuelle pour une deuxième fois là, dans le cas de Luc Merville. On parle d'une histoire qui se serait passée en 2000 dans le secteur de Rimouski. Quelle défense particulière de la part de Luc Merville en disant « Non, c'est pas moi. Elle s'est fait agresser sexuellement, mais c'est pas moi. » Alors que la victime savait très bien qui était son violeur, là.
On est habitué d'avoir des causes, des fois, où tu as des témoins oculaires qui disent « J'ai vu M. Tartampion traverser la rue dans les minutes qui ont précédé. » Alors là, il fait un petit peu noir, c'est la brunante, il vente un peu, la personne a un chapeau, alors là, pas de lunettes, des lunettes. Alors là, il y a un débat et effectivement, si tu n'es pas capable d'identifier un agresseur ou s'il y a un doute raisonnable quant au fait que c'est vraiment lui qui a commis le crime, bien, à ce moment-là, il va être acquitté. Mais là, on parle d'un noir, d'un homme de race noire, ultra connu. C'est probablement un des noirs les plus connus au Québec, là, avec Kavanaugh, Brad Waite, etc. Mais alors... ça va faire un spectacle à Rimouski, puis lui, il plaide que c'est pas lui qui a agressé sexuellement la fille. Alors, s'il y a une façon de bien voir la personne avec qui tu as un échange sexuel, c'est bien dans un contexte d'un échange sexuel, là, c'est à peu près les rapprochements les plus les plus serrés qu'on puisse imaginer. Alors, la fille a dit, oui, je l'ai reconnu, c'est lui. Puis, le portier, je pense, ou le barman de l'hôtel en question l'a reconnu aussi. Alors, ça n'a pas marché. Lui, il dit que c'est pas lui qui a... c'est pas lui qui a agressé sexuellement la fille dans un hôtel. Moi, j'ai été un petit peu surpris de voir cette défense-là. Le juge Rondeau de Rimouski ne l'a pas cru. Il paraît que la victime avait beaucoup d'aplomb et qu'il n'y avait aucun doute sur l'identité. Alors là, il dit qu'il va aller en appel de ça, mais je te dirais que c'est assez particulier. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu dans les annales judiciaires d'autres cas où une personne aussi connue a plaidé le fait qu'il y avait erreur sur la personne dans un contexte d'agression sexuelle. Alors, ça n'a pas marché à la Cour du Québec. Est-ce que ça va marcher avec la Cour d'appel? Parce que le condamné décide d'aller en appel, mais je trouve que c'est particulier comme défense, au moins ça.
Oui, puis tu sais, considérant le fait qu'au début des années 2000, les gens à Rimouski, pour la plupart, étaient blancs, là, je veux dire, c'est quelqu'un qui arrive...
Il
n'y
a pas légion de noirs à Rimouski, même aujourd'hui.
Luc Merville, ça fait bizarre à dire 25 ans plus tard, mais en 2000, il était à l'apogée de sa carrière. Tout le monde le connaissait, il était toujours à la télé, il faisait Notre-Dame de Paris. Donc, quand il passait quelque part, même à Québec, moi, je l'ai vu passer d'un bar parce que je travaillais d'un bar à cette époque-là, même à Québec, quand il passait, à Québec, on avait un peu de gens qui étaient noirs, ça commençait. Là, maintenant, il y en a beaucoup plus. Mais quand il passait, on savait que c'était lui. Là. Il avait un visage particulier, il avait sa coupe de cheveux aussi qui était particulière, puis il se présentait. Là, il disait « Bonjour, mon nom, c'est Luc. » Il était super gentil. On savait que c'était lui. Donc, à Rimouski, il y avait beaucoup moins de Noirs à Québec dans les années... Il y avait beaucoup moins de Noirs à Rimouski dans les années 2000. Là, il y en a peut-être un peu plus, mais quand une super vedette comme ça débarque à Rimouski, tout le monde le reconnaît, Maître Bellemare. C'était une défense qui n'était pas nécessairement fiable. La question que je vous pose, c'est qu'en 2018, que je vais vous poser plutôt, en 2018, lui, il a été reconnu coupable d'exploitation sexuelle pour des gestes qui étaient survenus en 1996. Il a purgé une peine d'emprisonnement de 6 mois dans la collectivité et il a été inscrit au registre des délinquants sexuels pour une durée de 20 ans. Quand il y a un procès pour une autre histoire de viol, est-ce que sa déclaration de culpabilité par un juge dans le dossier de l'exploitation sexuelle en 2018, là, quand il était déclaré coupable, est-ce qu'on prend ça en compte? Est-ce qu'on se dit, ouais, mais il a déjà été pogné pour exploitation sexuelle, donc ça ne me surprendrait pas qu'il ait fait une autre affaire demain? Ça y enlève-tu de la crédibilité?
Oui, certain que ça a été mis en preuve, là, c'est bien évident, parce que c'est pas le même type d'agression ou le même type de crime, mais ça fait quand même partie de son histoire et il a été déclaré coupable de ce crime-là. Il a fait de la prison, donc ça fait partie de son histoire judiciaire. Et c'est sûr que ça nuit à sa crédibilité. Parce que si tu as été devant n'importe quel tribunal, si tu as déjà été condamné pour un crime, puis si en plus de ça, c'est un crime odieux comme d'exploitation sexuelle, et qu'en plus de ça, tu as fait de la prison, bien c'est certain que c'est pertinent, puis c'est sûr que ça peut jouer au niveau de ta crédibilité. Et le juge, il est pas fou, là. Il est là pour juger de la crédibilité. Essentiellement, c'est ça. Dans un cas d'agression sexuelle comme celui pour lequel il a été condamné la semaine passée, il y a une question de crédibilité qui joue pour lui et pour la victime. On exige beaucoup de la victime parce qu'elle doit, par son témoignage, convaincre hors de tout doute qu'il y a eu une agression sexuelle, donc un contact sexuel non consenti. Alors, la crédibilité, il y a deux personnes. Il y a l'agresseur puis il y a l'agressé. Alors, le juge doit se faire une tête à travers les témoignages des deux personnes. Il n'a pas cru à Verville, probablement que c'est en partie à cause de ça, connaissant ses antécédents.
Okay, parce que j'étais persuadé, exemple, dans des dossiers où on implique le jury, là, j'étais persuadé que ce type d'information-là était laissé de côté pour ne pas biaiser les jurés. Fait que je me disais, est-ce que c'est la même chose pour les juges?
Non, pas du tout. Et dans le cas d'une condamnation de cette nature-là, c'est certain que ça joue. Et c'est certain que ça a certainement joué. Mais ce que le juge retient, le juge Rondeau, d'après ce que j'ai lu dans l'actualité ces derniers jours, le juge de la Cour du Québec a considéré que le témoignage de la victime était impeccable et qu'il ne souffrait d'aucun doute raisonnable. Alors, il a cru à 100% la victime, puis il n'a pas cru l'agresseur, donc il a condamné. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'éléments qui allaient dans ce sens-là, mais je n'ai pas assisté au procès, je n'ai pas entendu les témoignages, mais ce que j'en ai lu, ce que j'en ai compris, c'est qu'il y avait toute une côte à remonter parce que devant les tribunaux d'appel, d'abord, il est condamné. Alors, s'il va en appel, il n'y aura pas de témoignage. Le juge, la cour d'appel ne reprendra pas le témoignage au complet. Ils vont juger à partir des notes sténographiques, à partir de la preuve qui a été présentée. Ils vont regarder les témoignages qui ont été faits, puis ils vont se demander est-ce qu'à partir de cette preuve-là, le juge Rondeau pouvait en arriver à cette conclusion-là ou s'il n'aurait pas dû soulever ou constater la présence d'un doute raisonnable, ce qui aurait mené à l'acquittement. C'est ça que la cour d'appel va se demander, mais à mon avis, de la façon dont le dossier a été présenté en Cour du Québec, ça m'étonnerait que ça réussisse en appel.
Puis, est-ce qu'on a développé sur le fameux registre des délinquants sexuels? Est-ce que, comme il y a eu certaines promesses là, dans les dernières années, est-ce que vous en avez entendu parler? Je sais que Geneviève Guilbeault, vous avez abordé à ce sujet-là pour le fameux registre des délinquants sexuels.
Oui, Geneviève Guilbeault avait promis en 2018... quelques semaines avant l'élection initiale de la CAQ, ben qui avait mené à 74 députés, donc un gouvernement majoritaire de François Legault, Mme Guilbeault avait promis, comme députée de Louis Hébert à l'époque, parce qu'elle avait été élue dans une partielle en 2017, l'instauration d'un registre pour délinquants sexuels.
Mais ce serait le temps de revenir avec ça, Maître Bellemare, parce que là, on s'en va en élection dans un an. Mme Guilbeault doit redorer son blason parce que c'est pas la préférée des Québécois actuellement. Donc, les promesses qu'elle a faites il y a de ça quelques années, elle pourrait peut-être les mettre en place actuellement. Là.
Ben, c'est vrai. Hein?
Ben oui.
C'est vrai, mais moi, j'ai l'impression que Mme Guilbeault, je ne comprends pas trop sa stratégie parce que la semaine dernière, elle a avancé deux sujets. Alors que personne n'y posait des questions là-dessus, il n'y a aucun...